Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Madame à Paname, le podcast pour apprendre le français et découvrir la culture française. Je m'appelle Marion, j'habite à Paname et Paname, c'est le nom qu'on donne à la ville de Paris. Retrouvez la transcription de l'épisode, la fiche de vocabulaire expliquée, le quiz et toutes les activités dans l'abonnement premium du podcast disponible sur mon site www.madameapaname.com. Aujourd'hui, je vais vous parler des traditions de Noël en France. Alors, je ne sais pas pour vous, mais ici, Noël est la fête la plus attendue de l'année. Les villes et les villages sont décorés avec des sapins, des guirlandes, des rubans. Il y a des bonhommes de neige dans les vitrines des magasins. Et on installe aussi des lumières à l'extérieur dans les rues. Paris est magnifique durant la période de Noël. Il y a aussi les marchés de Noël. Ce sont généralement de petites cabanes en bois rassemblées au même endroit où vous pouvez trouver de petits cadeaux à offrir à vos proches et de quoi manger. C'est un moment de l'année vraiment magique et féerique. Si vous cherchez le moment idéal pour visiter la France, la période des fêtes de fin d'année peut être une très bonne option, même si, c'est vrai, il fait froid. Alors, ce que j'adore faire aussi pendant cette période, je vous le dis, c'est d'aller à Disneyland. Ah, je sais que c'est pour les enfants, mais Disneyland Paris au moment d'Halloween et juste après, à Noël, c'est génial. J'adore leur décoration, l'ambiance, c'est un petit cocon où, le temps d'une journée, on a l'impression d'être protégé du monde extérieur dur et sauvage. Je vous conseille, même si vous êtes adulte. Alors, dans le dernier épisode culturel, je vous ai parlé du fameux repas de Noël des Français. Vous l'avez écouté ? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire parce que le repas fait vraiment partie des traditions françaises et ça vous permettra aussi de découvrir les meilleurs plats de l'hiver. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus des traditions de Noël à la française. Donc, comment les Français fêtent Noël ? Et quelles sont les choses à savoir si vous fêtez Noël avec des Français? Alors, je vous préviens tout de suite, il va y avoir du vocabulaire en lien avec Noël. Et Noël, c'est une fête religieuse à la base, vous le savez. Mais aujourd'hui en France, beaucoup de personnes ne croient pas du tout en Dieu, ne vont jamais à l'église et fêtent bien sûr Noël. C'est d'ailleurs probablement le cas de la majorité des gens. Donc, à l'origine, Noël est une fête religieuse, mais aujourd'hui, pour beaucoup de Français, c'est surtout une fête culturelle et vous allez voir, certaines choses sont très éloignées de la religion. Première chose qui annonce la période de Noël, c'est la décoration. Dans les magasins, dans les rues, dans les maisons, elles sont vraiment partout. Ces décorations sont en vente dès le mois de novembre, parfois même avant la fête d'Halloween. Il faut dire que les Français attendent ce moment avec impatience. Chez moi, c'est le 1er décembre que l'on fait le sapin. Alors, le week-end après le 1er décembre, parce que c'est généralement le week-end que les familles décorent leur maison. C'est une vraie activité familiale. On va chercher les cartons, rester dans la cave ou le grenier toute l'année et on ressort les guirlandes, les boules de Noël, l'étoile qui va tout en haut du sapin. Il y a aussi les petits personnages, les petits lutins, le Père Noël et tous les éléments pour faire la crèche au pied du sapin avec Jésus, les anges, les animaux. Alors, comme je vous disais, en France aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui ne sont pas du tout religieuses, qui ne vont pas à l'église, mais qui font la crèche de Noël au pied du sapin. Oui, oui. Alors, quand on ouvre les cartons, on retrouve toujours les mêmes choses d'une année sur l'autre. Mais je sais pas pourquoi. C'est comme si on les avait oubliés le reste de l'année et qu'on les redécouvrait toujours avec surprise. Oh, le Père Noël qui brille, j'avais oublié. Oh, la guirlande lumineuse, j'ai ça, moi. Ah oui, la guirlande dorée au fond du carton. C'est comme ça. L'objet principal de ce joyeux bazar, la pièce maîtresse de la décoration, c'est bien sûr le sapin. Un beau sapin vert, de préférence. Et puis, c'est un incontournable. On peut le retrouver dans toutes les tailles. Très très grand jusqu'au plafond ou tout petit posé sur l'étagère. Même dans les appartements les plus petits, les studios ou les chambres universitaires, il est possible d'avoir son petit sapin de Noël. Alors, on a le choix. Un sapin naturel ou un sapin artificiel. En plastique. Les sapins artificiels se trouvent facilement dans les supermarchés. Ils sont un peu plus chers quand on les achète, mais on peut les garder pour les années suivantes, parfois même pendant des dizaines d'années. Les sapins naturels peuvent être achetés dans des magasins de jardinage, par exemple, dans des supermarchés aussi, ou directement chez le producteur de sapins. Oui, ça existe. L'avantage des sapins naturels, c'est l'odeur. Ah, quoi de plus agréable qu'un sapin frais qui sent bon la forêt et la tradition. Le point négatif, c'est qu'il perd ses aiguilles. Donc, il faut faire le ménage plus souvent. Il faut aussi faire attention à ce qu'il ne se dessèche pas. Ce serait dommage d'avoir un sapin tout sec qui perd sa belle couleur verte. Après, c'est personnel, mais moi, j'aime le sapin naturel, mais je n'aime pas l'idée de couper des milliers d'arbres pour Noël et de les jeter dans la rue un mois plus tard. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en fait, je me suis rappelée d'une chose en travaillant sur cet épisode. Quand j'étais petite, début décembre, j'allais dans la forêt avec ma mère et on allait couper des branches de genévrier. Le genévrier, c'est un arbre qui n'a pas de feuilles, mais qui a des aiguilles, comme le sapin. C'est un arbre qui ressemble au sapin. Et on prenait des branches, 6 ou 7 branches, on les ramenait à la maison et on plantait toutes les branches dans un gros pot. Et c'était ça, notre sapin. Voilà, ça peut être une option. Si vous cherchez une alternative et que vous ne voulez pas couper un arbre, il est aussi possible de juste couper certaines branches. Une fois qu'on a l'arbre de Noël, on peut s'attaquer à la décoration. Guirlandes, boules de Noël, ornements, il y en a pour tous les goûts. Traditionnellement, le rouge, l'or et le blanc sont les couleurs les plus appréciées pour Noël. Mais vous pouvez tout à fait changer de thème et varier les couleurs. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens font attention aux couleurs qui vont bien ensemble. Ils font attention au fait que le sapin ne soit pas trop chargé. Il y a souvent beaucoup de blanc, c'est même parfois épuré. Mais quand j'étais petite, dans les années 90, ah mais le sapin de Noël, on ne réfléchissait pas du tout aux couleurs. On mettait tout ce qu'on trouvait. Du rouge, du bleu, du vert, du doré, de l'argenté. Plus il y en avait, et mieux c'était. C'est plus neutre, maintenant, ou plus minimaliste, disons. Enfin, c'est mon impression. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on met des boules de Noël sur le sapin? D'où vient cette tradition? Ça date du Moyen Âge. À cette époque, les sapins commencent à être décorés pour des raisons religieuses. Ils représentent alors l'arbre du paradis perdu, l'Éden, et sont installés sur la petite place devant les églises. En hiver, en France, vous savez probablement que les arbres qui ont des feuilles perdent ces feuilles, et donc les seuls arbres verts en hiver, ce sont les arbres qui ont des aiguilles, comme le sapin ou le genévrier. Donc, sur ces sapins, on accroche traditionnellement des pommes, de vraies pommes, mais aussi de petites pâtisseries et des hosties. Les hosties. Est-ce que vous savez ce que c'est une hostie? Si vous savez, vous êtes très fort. Alors, j'explique. Les hosties, ce sont de petites rondelles de pain. C'est blanc et c'est très spécifique. C'est utilisé pendant la messe à l'église. C'est religieux. Bon. Donc, cette tradition avec le sapin et les pommes se développe de plus en plus. Et la population commence, elle aussi, à décorer des sapins avec des pommes. Ce n'est plus seulement devant les églises. Sauf que, en 1858, à cause de la météo et du manque d'eau, la récolte de pommes est très mauvaise en Lorraine, une région dans l'est de la France. Il n'y a pas assez de pommes pour tout le monde, pas assez pour décorer les sapins. C'est alors qu'un souffleur de verre, originaire de Lorraine, donc un homme qui crée des objets de décoration en verre, commence à fabriquer des boules de Noël pour remplacer les pommes. Alors, il n'a rien inventé, cela existait déjà en Allemagne, mais c'est sa première apparition en France. Et les pommes en verre, c'est aussi pratique, parce que les souris commençaient à avoir l'habitude de grignoter les pommes sur les sapins. Aujourd'hui, les boules en verre ont presque disparu. Elles ont été remplacées par des boules en plastique, beaucoup moins fragiles et beaucoup moins chères. Mais il y a encore quelques verreries en France qui proposent des boules en verre. Mais c'est aujourd'hui un produit de luxe. Voilà, vous saurez maintenant quand vous verrez des boules sur un sapin qu'à l'origine, c'était des pommes. Bon, il manque encore un objet pour finir la décoration du sapin. Vous savez lequel? C'est l'étoile au-dessus du sapin, tout en haut du sapin. C'est vraiment la touche finale, la dernière étape avant d'allumer les guirlandes lumineuses. Alors, tout en haut du sapin, on peut mettre une étoile, mais on peut aussi mettre un ange ou un ruban, comme un gros nœud, par exemple. Selon la tradition chrétienne, l'étoile représente en fait l'étoile de Bethléem, l'étoile qui a guidé les rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar vers l'enfant Jésus à sa naissance. En parlant de Jésus, il y a une autre tradition importante en France, la crèche. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? La crèche, c'est une sorte de mise en scène de la naissance de Jésus dans une étable. Une étable, qui sait ce que ça veut dire, une étable ? Une étable, c'est un bâtiment où sont élevées les vaches. Selon la tradition, Jésus est né dans une étable. Bon. Donc, dans la crèche, comme on la représente aujourd'hui, il y a toujours des animaux. Une vache, un âne, un mouton. Et au milieu des animaux, il y a l'enfant Jésus, la Vierge Marie, sa mère, et Joseph, son père. Il peut aussi y avoir un berger, donc la personne qui garde les moutons, les rois mages un peu plus loin et des anges. Tous ces personnages sont donc réunis autour du petit Jésus dans son berceau ou sur la paille. Alors, bien sûr, il y a des variantes et on peut trouver beaucoup de choses aujourd'hui dans une crèche. Parfois, c'est assez insolite. On va le voir. Alors, ceux qui nous écoutent et qui fêtent Noël, je ne sais pas si vous faites une crèche au pied du sapin. Si oui, je ne sais pas si vous faites la chose suivante. Je vous explique. Quand j'étais petite, je faisais le sapin avec ma mère début décembre, avec la crèche au pied du sapin. Et je plaçais les personnages des rois mages, donc les trois rois mages, loin de la crèche. Et tous les jours, je les approchais un peu. Je les approchais, et les rois mages arrivaient le 6 janvier, à la crèche. Vous faites ça ou pas ? C'est une crèche interactive, parce que j'en ai discuté avec des Français et j'ai l'impression d'être la seule à avoir fait ça et ça m'étonne. Donc, vous voyez, dans chaque famille, il peut bien sûr y avoir des traditions un peu différentes. Je vous mets des photos de crèches dans la transcription si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Dans les maisons, comme je vous disais, la crèche se place sous le sapin, à côté des cadeaux de Noël. D'ailleurs, vous pouvez acheter les petits personnages de la crèche sur les marchés de Noël. Il y a aussi des crèches grandeur nature. Qu'est-ce que ça veut dire, grandeur nature ? Ça signifie qu'il y a des crèches avec des personnages aussi grands que nous. Alors, ce peut être dans les églises ou même sur les places publiques, dehors. Et puis, on ne peut pas parler de la crèche traditionnelle sans parler de la crèche provençale, originaire de Provence, donc une région dans le sud de la France. La crèche provençale est un peu différente, parce qu'elle n'est pas dans le désert, là où est né Jésus, mais dans un village typique du sud de la France, avec plein de personnages différents qu'on appelle des santons. Les santons, ça signifie les petits saints en provençal. Donc, il y a bien Jésus, Marie et Joseph, mais le décor est complètement différent. C'est plus une étable avec des animaux. C'est la Provence avec des habitants provençaux dans des scènes de la vie quotidienne, dans la rue. Donc, on voit Jésus, Marie, Joseph, et juste à côté, il y a un boulanger, ou un marchand, ou un pêcheur, ou une fermière. Et puis, dans le décor, ce sont évidemment des maisons provençales, avec le paysage de Provence, ses petites rivières, ses collines et ses oliviers. C'est très connu, c'est un véritable symbole en Provence. D'ailleurs, c'est un vrai métier de créer des crèches comme ça. On appelle les artistes et les artisans qui font des crèches provençales les santonniers, les personnes qui font des santons. Ils créent les santons avec de l'argile, les peignent, ils les habillent avec de petits vêtements. Et d'ailleurs, j'avais un grand-oncle dans le sud de la France qui faisait ça, je m'en rappelle en vous en parlant. Donc chaque santon est unique. Ils sont peints à la main et c'est un travail vraiment très minutieux, très précis. Même chose, je vous mets les photos dans la transcription si vous voulez voir. Regardez, hein, il y a des enfants, des femmes, des hommes, des personnes âgées et même un bar avec des hommes en train de boire l'apéritif. Alors, petite anecdote. Il y a un santon un peu particulier. Il est d'origine catalane, donc on le retrouve parfois dans les crèches françaises, surtout dans les régions proches de la Catalogne. C'est le Caganer. C'est un petit personnage qui est caché dans un coin. Pourquoi est-ce qu'il est caché? Eh bien, parce qu'il est en train de faire caca. La crèche de Noël avec un personnage qui fait caca. Je ne sais pas si vous êtes choqués ou si ça vous fait rire. C'est particulier quand même. Alors, pourquoi? Ce n'est pas très clair, mais on dit que le personnage, en produisant des excréments, fertilise la terre, donc nourrit la terre. Et ce serait un symbole de renouveau, de prospérité et de chance pour l'année à venir. C'est un porte-bonheur, en quelque sorte. Ouais. Bon, je vous mets une photo hein, dans la transcription aussi. Sachez qu'il y a des caganers qui représentent des personnages connus aussi, donc des chanteurs, des politiques évidemment, des joueurs de foot, et vous pouvez tout à fait les mettre dans la crèche. Voilà! Alors, on va recentrer un peu cet épisode, hein, et on va parler un peu des marchés de Noël. Je l'ai juste évoqué, mais arrêtons-nous un peu sur le sujet. C'est une très vieille tradition qui viendrait d'Allemagne et d'Alsace, la région française qui partage sa frontière avec l'Allemagne. Cette tradition des marchés de Noël serait vieille de plus de 500 ans. Petit à petit, cette tradition s'est développée en France et en Europe. Le plus célèbre marché de Noël, celui que je vous conseille de voir au moins une fois dans votre vie, c'est le marché de Noël de Strasbourg. C'est le tout premier marché de Noël créé en France en 1570. Il est très ancien. C'est pour cela qu'on appelle Strasbourg la capitale de Noël. Qu'est-ce qu'on peut découvrir au marché de Noël de Strasbourg? Alors, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul marché, mais 11 marchés au total. Je vous mets le lien avec les différents lieux dans la transcription. Sur la place Kléber à Strasbourg, impossible de rater le grand sapin. C'est un sapin de Noël géant qui fait plus de 30 mètres de hauteur. Il est merveilleusement décoré avec des boules de Noël géantes, des guirlandes scintillantes, des étoiles. Attendez que le soleil se couche et admirez. Il brille de mille feux. Toute la ville est illuminée. C'est vraiment un moment magique. En se déplaçant dans le centre-ville, vous trouverez des maisons totalement décorées avec des branches de sapin, des cœurs, des cadeaux, des bonhommes en pain d'épices et même des ours en peluche, comme ça, sur les façades des maisons. Je vous laisse regarder dans la transcription, je vous mets aussi des photos, c'est très mignon. J'ai fêté Noël à Strasbourg il y a 2 ans, je crois. Et vraiment, c'était magique, j'ai adoré. C'était beau, on a bien mangé. Je vous recommande l'expérience. Sur les stands des marchés de Noël à Strasbourg, vous pouvez trouver des décorations de Noël, des créations artisanales, locales, des spécialités à manger et bien entendu le traditionnel vin chaud aux épices. Alors, le vin chaud, personnellement, je n'aime pas trop. Je suis désolée de le dire. J'aimerais aimer, mais c'est trop fort pour moi. Une gorgée, ça va, et plus, c'est trop. Donc, je veux bien tremper les lèvres dans le gobelet, mais pas plus pour moi. En fait, le vin chaud a une odeur très particulière. Et c'est la première chose que l'on sent quand on se balade dans les rues du centre-ville de Strasbourg. Alors, si vous ne buvez pas d'alcool, pas d'inquiétude. Sachez qu'il existe une version jus de pomme chaud. Ça réchauffe de l'intérieur, surtout quand il fait froid dehors. Testez et écrivez-moi ensuite pour me dire si vous avez aimé, ça m'intéresse. À Strasbourg, vous pouvez aussi profiter des spectacles qui sont organisés un peu partout dans la ville. Il y a des performances artistiques, des jeux de piste pour les enfants, des veillées musicales. L'atmosphère est vraiment chaleureuse. Autour de Strasbourg, il y a plein de petites villes et villages qui organisent des marchés de Noël, comme Colmar, par exemple. Passons à la tradition suivante. Vous le savez, les enfants sont souvent pressés. Ils sont souvent impatients de fêter Noël et de recevoir des cadeaux. Heureusement, il y a le calendrier de l'Avent pour les faire patienter. Le calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez ça, vous aussi? En fait, c'est une sorte de planche en carton avec 24 petites fenêtres prédécoupées. Et l'objectif est d'ouvrir une case tous les jours en décembre jusqu'à Noël. Donc, le 1er décembre, vous ouvrez la case numéro 1. Le 2 décembre, la case numéro 2. Si le 3 décembre, vous oubliez, eh bien, le 4 décembre, vous avez le droit d'ouvrir les cases 3 et 4, et ainsi de suite, jusqu'à Noël. Et dans les cases, qu'est-ce qu'il y a? Traditionnellement, du chocolat. Mais maintenant, il existe des calendriers de l'Avent avec à peu près tout. Du thé, des cosmétiques, des jouets, du vin, tout. Alors, interdit d'ouvrir toutes les cases le premier jour et de tout manger, hein? Alors, ce n'est pas une tradition française à la base, mais une tradition qui nous vient d'Allemagne, encore une fois. Autrefois, chaque matin de décembre, au réveil, les enfants recevaient des images religieuses. Ils découvraient une image tous les jours jusqu'au jour de Noël, qui est le jour de la naissance de Jésus. On est d'accord. Les chocolats sont apparus en 1958 avec le même objectif, de décompter les jours qui restaient avant Noël. Bon, et si on parlait de la fête de Noël? Comment les Français fêtent Noël, concrètement? Pour les enfants, le plus important, c'est souvent les cadeaux de Noël. Et c'est le Père Noël qui distribue ces cadeaux. Il habite au pôle Nord, il est habillé en rouge, il a une grande barbe blanche et il est entouré de lutins, des petits bonhommes qui l'aident à préparer les cadeaux, les emballer et les distribuer. Le soir de Noël, le Père Noël fait le tour du monde en une nuit et distribue des cadeaux aux enfants. En fait, moi je pensais que pour les personnes qui fêtent Noël, c'était toujours le Père Noël qui offrait les cadeaux. Mais non! En habitant en Espagne, je me suis rendu compte que c'était les rois mages qui offraient des cadeaux et c'était le 6 janvier. En Colombie, rien à voir, c'est El Niño Dios, donc c'est plutôt Jésus en fait, qui offre des cadeaux. En France, c'est vraiment le Père Noël, donc c'est plus éloigné de la religion. En décembre, c'est traditionnel, les enfants écrivent une lettre au Père Noël avec une liste de cadeaux qui leur feraient plaisir. Combien de lettres j'ai postées quand j'étais enfant ? Pour l'adresse, j'écrivais « Père Noël, Pôle Nord » et je postais la lettre avec ma liste de cadeaux. La condition pour recevoir des cadeaux, c'est d'être sage toute l'année et on ne peut pas faire de bêtises. Le soir de Noël, le Père Noël prend sa hotte sur le dos, donc le grand sac où sont tous les cadeaux, et il part sur son traîneau volant. Donc c'est comme une voiture ouverte avec des lames qui glissent sur la neige. Et le traîneau est tiré par des rennes. Donc ce sont des animaux de la forêt, les rennes. Et les rennes volent dans le ciel. En France, le Père Noël est même annoncé à la télévision. C'est très sérieux. Le 24 décembre, au moment de la météo, on indique où en est le Père Noël dans sa tournée, à quelle heure il va passer en France. Oui, oui, oui. Pendant la nuit, le Père Noël dépose les cadeaux. Voilà l'histoire. Et vous vous imaginez la catastrophe quand les enfants découvrent que ce n'est pas vrai. Alors, il faut savoir que les traditions varient, changent beaucoup en fonction des familles. C'est difficile de généraliser. Certains Français célèbrent Noël le 24 décembre, la veille de Noël donc. Ils se rassemblent autour d'un bon dîner qui dure des heures et des heures. Foie gras, saumon, escargot, pommes de terre, viande, fromage, bûche de Noël. Il y a beaucoup de choses à manger sur la table. Parfois, le Père Noël passe dans la nuit quand les enfants dorment. Et parfois, c'est un adulte de la famille qui se déguise. Et c'est toujours pareil. Un adulte trouve une excuse et disparaît quelques minutes pour se déguiser en Père Noël et distribuer les cadeaux au moment du dessert. Les enfants pensent vraiment que c'est le Père Noël. L'adulte revient ensuite en disant « Oh mince, j'ai raté la visite du Père Noël !» Et tous les ans c'est pareil, et tous les enfants y croient. Alors, pour moi c'était pas comme ça. Je vous ai déjà raconté comment ça se passait dans un épisode, je vous mets le lien dans la description. Mais il y avait bien une fête de Noël au travail de mon père, avec ses collègues et les enfants. Et c'était comme ça. Un collègue se déguisait et offrait les cadeaux. En plus, ce n'était même pas le jour de Noël, hein, pas du tout, c'était avant. Et je me rappelle qu'une année, j'étais petite. Et je trouvais ça bizarre, parce que le Père Noël avait des bijoux. En soi, c'est possible. Il avait aussi une voix de femme. Bon. Et il avait aussi des ongles longs avec du vernis à ongles. Peut-être, après tout. Mais je me rappelle avoir trouvé ça bizarre. Mais à aucun moment je n'ai pensé « Bah, c'est une collègue de mon père qui s'est déguisée. » Non, non, ma réflexion n'est pas allée jusque-là. Dans certaines familles, Noël est célébré le 25 décembre, au déjeuner. Le Père Noël est passé pendant la nuit, les enfants découvrent les cadeaux le matin de Noël et ensuite, tout le monde partage un bon repas et les cadeaux sont distribués à ce moment-là, souvent au dessert. Enfin, pour les familles catholiques et pratiquantes, il y a ce qu'on appelle la messe de minuit, qui n'est en réalité pas à minuit, mais plutôt entre 18h et 22h, le 24 décembre donc. Cela permet aux enfants d'y assister également, ce n'est pas trop tard. Avant, c'était à minuit, mais maintenant, on a avancé un peu l'horaire. Donc, c'est à l'église et là, Noël prend un vrai sens religieux. Mais l'immense majorité des Français ne participent pas du tout à la messe de minuit. Mais c'est ouvert à tous, quelle que soit votre religion, vous pouvez bien sûr y participer, si vous le souhaitez. Alors, pour finir, je vous propose de découvrir quelques expressions pour souhaiter de bonnes fêtes en français. L'expression la plus employée est « Joyeux Noël ». Mais vous pouvez aussi dire « Bonne fête » ou « Joyeuse fête » ou « Meilleurs vœux ». Car c'est aussi la fin de l'année et le début d'une nouvelle année qui se prépare. Il est très fréquent de souhaiter les deux aux personnes que vous rencontrez pendant cette période. Joyeux Noël et meilleurs vœux. Par exemple, le vendredi soir au travail, juste avant les vacances, c'est quelque chose que vous pouvez dire à vos collègues. Joyeux Noël et meilleurs vœux. J'espère que cet épisode vous a plu. Mettez plein d'étoiles de Noël pour noter ce podcast et je vous rappelle que mon livre « Je parle français avec Madame à Paname » est disponible en librairie et sur Amazon. Vous pouvez le commander en version papier ou version e-book. Je vous mets le lien dans la description. Ce sont 75 dialogues du quotidien pour savoir quoi dire dans toutes les situations, il y a des quiz, le vocabulaire en images et des audios qui accompagnent tous les dialogues. Donc, ça peut être un très bon cadeau de fin d'année pour vous ou pour un proche. C'est un cadeau utile. Je vous mets le lien dans la description. À bientôt !